Pays Midi Quercy Mater, nous sommes allés faire un tour du côté de ce que montre le territoire à l'œil nu, puisqu'on a fait la géologie, la spéléologie, le bâti. On fait un tour du côté de la végétation avec Richard Desplat, jardinier à la commune de Sept-Fonds.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors on va y venir au travail que vous faites à Sept-Fonds depuis de longues années, puisque la traverse Sept-Fonds aussi, les arbres qu'il y a, enfin un petit peu le changement côté la manière dont la nature peut entrer dans la ville, c'est quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, avant ça, vous avez une formation qui vous permet de reconnaître les espèces et les sols du coup, et l'adéquation entre elles sur le territoire. Vous êtes originaire du territoire, on vous la fait pas, quoi.
Ouais.
On vous la fait pas.
C'est ça, oui.
Alors j'aimerais bien que vous me racontiez, par exemple, je sais pas moi, une balade sur, on va partir du plus haut, sur un cosse calcaire, puis des vallées plus ou moins profondes. Qu'est-ce qui se passe en termes de sol? Comment on le voit à l'œil nu qu'il y a un changement de sol, ne serait-ce que parce que la végétation a changé? Puis quand on descend vers la plaine, vers les bornes de l'Aveyron, les ripisylves, ça y est, un nom savant est lâché. Enfin, j'aimerais que vous nous baladiez comme ça, entre les cornouillers, les châtaigniers, érables, les érables et les choses comme ça. Bon, d'abord, si l'homme n'était pas là, qu'est-ce qu'il y aurait?
Grande forêt, tout simplement. C'est le stade évolutif d'un terrain, hein. On constate, d'ailleurs on le voit sur les cosses du Quercy, on arrive à voir des murs au milieu des bois, chose assez étonnante. On peut se poser la question, que font des murs au milieu des bois?
Oui, on se dit les mecs sont fous, sur les construire des murs pour protéger les arbres, pour pas qu'ils s'en aillent.
Non, alors en fait c'était des pâtures tout simplement avant, où les sols étaient cultivés, on ramassait les pierres, on délimitait les parcelles en ramassant les pierres. Mais du fait que ces champs n'ont plus été utilisés par l'exploitation agricole, on va avoir une friche qui va s'installer. Alors la plante colonisatrice, c'est la ronce en premier. Elle adore ça. Elle adore ces espaces. Elle fait un gros tapis de ronces, hein, impénétrable. Au pied des ronces vont forcément naître des arbres qui seront protégés et pas mangés. Ces arbres vont percer le tapis de ronces, commencer à faire, disons, un couvert végétal. Il va y avoir concurrence de lumière entre les arbres et la ronce va commencer à disparaître, et on va avoir un stade qui va évoluer vers la forêt, quoi. Donc c'est pour ça que l'heure actuelle on se retrouve avec des forêts sur l'Écosse, de chênes majoritairement, d'érables champêtres, érables de Montpellier, qui sont les trois arbres qu'on trouve en futaie, qu'on trouve le plus souvent, et des murets de pierres sèches posées au milieu. C'est qu'avant, tout simplement, c'était des champs. Donc voilà, sur 50 jusqu'à 70 ans, l'évolution se fait sur ce temps-là, quoi. 50-70 ans.
En fait, c'est la fin du pastoralisme qui a fait revenir les forêts. Bon, les forêts antérieures au pastoralisme à des siècles, on peut supposer que déjà, dans la mesure où le Quercy a pris son nom du terme latin du chêne, c'était déjà le dominant sur le plateau.
Oui, c'était le dominant.
Les frênes.
Frênes, on trouve pas mal de frênes. On a certains lieux-dits d'ailleurs qui s'appellent frécinettes, nous, sur cette fond, frécinette, qui veut dire la naissance du frêne. Donc on a des endroits qui, si on laisse une prairie naturelle seule ou sans fauchage, on a une population de frênes qui apparaissent spontanément, et voilà, c'est du frêne.
Bon, on descend un petit peu, il y a quelques vallées, que ce soit Saint-Symphorien, ici, les vallées de la Bonnette, la Gourde.
La vallée de la Lère, Ben, là, on va plus retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, les ripisylves, hein, donc des végétaux qui seront plus les pieds dans l'eau, dont un dominant qui est l'aulne glutineux, qui est un arbre magnifique, qui servait à faire les sabots à l'époque. C'est un bois orangé, assez tendre, mais résistant à l'eau. On va trouver pas mal d'érables aussi. On va retrouver l'érable qui va se, donc, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus grand, qui va se situer donc sur les pieds dans l'eau, en train de se nourrir allègrement de l'eau qu'elle est présente. On va trouver l'iris jaune, qui est très intéressant, l'iris des marais, qui est un iris qu'on trouve uniquement les pieds dans l'eau, qui est jaune, qui a un pouvoir d'assainissement assez intéressant aussi. À savoir.
Alors ça, un pouvoir assainissement, ça veut dire que l'eau du ruisseau, quand elle a rencontré ces plantes-là, elle est beaucoup plus saine que...
Ça permet de quand même de filtrer tous les éléments qu'on peut nous rejeter par l'activité humaine dans les ruisseaux, hein. Ce sont des plantes qui ont ce pouvoir, comme la phragmite, qui ont le pouvoir d'assainir l'eau, hein. C'est des plantes qui sont utilisées dans des assainissements.
Maintenant, on a compris la nature et on s'en sert.
Ouais, exactement. Ouais. On redécouvre, parce que ce sont des techniques qui, à mon avis, existaient déjà depuis belle lurette. Hein.
Est-ce que les arbres grandissent en proportion parce que justement la nature des sols change au fur et à mesure qu'on descend vers les...
Ouais, on va avoir voilà des sols qui vont être plus souples, plus alluvionnaires, donc des arbres beaucoup plus grands, le peuplier entre autres, qui est quand même un élément hélas qui est souvent planté en bord de rivière et qui devient un élément de banalisation du paysage. Ça, on s'en rend compte. On le trouve pas nous sur l'Écosse, mais dès qu'on va descendre sur les vallées Aveyron, vallée du Tarn, là on se rend compte qu'il y a des éléments de banalisation du paysage, c'est les peupleraies.
C'est pour assécher, en fait.
C'est surtout aussi pour une culture pour le bois, hein, qui ouais. Permet d'avoir des bois sur assez rapidement, hein, comme la culture du pin. Mais qui, voilà, ce sont des plantations qu'on trouve un peu partout en France et un peu partout et qui font effet de banalisation du paysage. Donc ouais, on a une perte d'identité des territoires avec ça.
Ça fait tristounette. Alors ça, vous vous êtes attaché à l'identité du territoire en matière d'espèces naturelles.
Ouais, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que 2003, on a eu une très 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 bonne leçon à retenir. C'est que tous ces végétaux qui étaient pas forcément adaptés à nos sols et à nos climats ont souffert de la sécheresse. Le fait d'utiliser des végétaux, je parle d'aménagement paysager en ville ou autour des maisons ou chez soi, hein, dans le jardin en général. Le fait d'utiliser des végétaux locaux, on a des végétaux donc adaptés au sol, au climat. Donc si on a des fortes sécheresses, on va avoir des végétaux qui sont capables de résister. D'où un intérêt d'utiliser le végétal local, quoi. Et non des végétaux qui viennent déjà peut-être de l'étranger ou qui ont nécessité des techniques de culture qui sont peut-être pas très écologiques. Voilà, on a suffisamment de végétaux spontanés, une végétation spontanée intéressante à cultiver chez soi pour avoir de très beaux résultats.
Théi Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
On est avec Richard Desplat, jardinier à la commune de Sept-Fonds. On parle de la végétation du territoire du pays Midi-Quercy. Vous disiez qu'il faut garder des espèces endogènes, ne serait-ce que pour... enfin, des espèces du cru, on va dire. Ne serait-ce que aussi pour pas jurer avec l'identité du territoire. Mais le réchauffement climatique, est-ce qu'il va pas nous amener la résistance finalement de populations plus méditerranéennes dont on dit qu'elles vont monter? Alors elles vont pas monter comme ça naturellement, c'est par la sélection naturelle que celles qui supporteront moins la sécheresse subsisteront moins et celles-là résisteront. Est-ce que c'est pas le moment de planter des oliviers?
Alors c'est marrant parce qu'on a naturellement on est sur la chaîne de l'olivier. Sauf qu'il y a deux arbres qui sont pas présents sur la chaîne de l'olivier, c'est l'olivier et le chêne vert. On n'a pas de chêne vert, on n'a pas d'olivier. Mais l'olivier, je pense pas que ce soit une bonne solution. Déjà parce que c'est pas... En thème décoratif, ça peut être intéressant. Mais
oui, on peut avoir un olivier dans son jardin, voilà, on va pas se fâcher. Voilà, mais planter une oliveraie...
Non, je pense pas que ça réussisse. On va avoir des problèmes de...
D'hiver,
tout simplement. Pas que l'olivier ne va pas résister au froid, il va surtout pas aimer le gel prolongé au niveau du sol, surtout si les sols, ici on a des sols argileux, qui ont la capacité de retenir l'eau. Si ces sols-là gèlent, si les sols gèlent à moins 15 de profondeur, moins 15 cm de profondeur, les racines de l'olivier supporteront pas et l'olivier ne tiendra pas, quoi.
Alors vous êtes, si j'ai bien compris, hein, mis à part le titre service technique, jardinerie, etc., vous travaillez quand même sur l'identité florale et les plantes dans une commune qui a un bourg, qui a un village. Ouais. Comment vous pouvez faire le lien entre des plantations et une identité?
Ben, tout simplement en réutilisant des espèces, en observant un peu ce qui se passe sur les flores autochtones, hein, et en essayant de les insérer dans la ville et dans le fleurissement de ville, et en les associant avec quelques espèces, disons, plus horticoles. Et voilà, on fait rentrer un peu ce qu'on peut percevoir en campagne dans la ville, quoi. Donc là, il y a plein d'exemples. En ce moment, on voit le géranium sanguineum, qui est une petite plante qu'on trouve sous l'Écosse, qui va fleurir une espèce de rose fuchsia, qui est très intéressante, très florifère. Et dès qu'on le cultive en massif de vivaces, ben c'est une plante très remarquable, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Je parlais d'iris, l'iris jaune, c'est pareil, l'iris jaune est une plante qu'on trouve naturellement, et dès qu'on le met en culture sur un espace paysager, c'est une plante qui a des intérêts très importants, quoi.
Bon, ça se fait pas dans une émission de radio, mais est-ce que vous pouvez me dire du mal de camarades, quelles sont les aberrations à pas faire dans une ville? Parce que je suppose que
un exemple d'aberration.
Vous avez dû traverser des villes où vous avez dit oh là 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 encore ça, il a dû avoir un prix de gros le gars, mais il se rend même pas compte que c'est tout pareil.
Ouais, je peux pas faire la dénonciation comme
si,
ça.
Si.
Non, non, je peux pas.
Si, on dirait que c'est dans une ville loin d'ici, qu'on ne saurait pas où c'est. Mais les choses à pas faire.
Je pense des plantations de résineux, par exemple. Des alignements de pin parasol.
Oui, donc ça c'est au bord de la Méditerranée, c'est pas forcément pas ici.
Voilà, c'est, je sais pas, je vois, au niveau identité paysagère, je vois pas l'intérêt, vraiment. Où on peut avoir des plantations de budélia, par exemple, l'arbre à papillon. Quand on sait que c'est un arbre qui pose de gros problèmes, c'est une plante invasive, tout simplement, hein, qui va se ressemer en grande quantité à des endroits où on la veut pas et qui va prendre le pas sur des espèces locales. On a des gros soucis avec budélia et un autre arbre qui s'appelle l'érable Negundo. Alors qu'il n'y a rien à voir avec l'érable qu'on trouve, comme l'érable champêtre, l'érable montpellier qu'on trouve sur nos régions, qui est une espèce horticole et qui est invasive. Et on se retrouve entre autres des bords de rivière complètement envahis par l'érable Negundo et budélia, et qui appauvrissent en fait la végétation, la ripie sylve, qui sont des plantes invasives, quoi.
Parce que ça, c'est une règle, la fin de la diversité, ça appauvrit.
Ah bah oui, ça c'est certain. Ça c'est certain, ouais. Là, c'est la règle de base. Plus c'est diversifié, mieux ça sera pour tout le monde. Ça c'est certain.
Et c'est quelque chose dont tout le monde a conscience, ça? Ou est-ce que pendant longtemps, on n'a pas cru que vu qu'on pouvait trouver chez des pépiniéristes des choses, on pouvait les transposer, et puis ça pousse et c'est joli. Et on passe au problème suivant, des panneaux publicitaires.
Ouais, c'était ça, ce qu'on proposait à des gens des choses, mais bon... Enfin, les gens, c'est vite à dire, mais c'est vrai qu'on réfléchissait pas à ce côté diversité, quoi. En général, on avait un problème, on avait une solution chimique, si c'était on avait problème d'attaque d'insectes, on avait une solution chimique. En général, c'était ça qui était pratiqué. À tel type d'insectes, tel produit chimique, avec telle application. Je prends un exemple. Hein. Alors que maintenant, on va plus réfléchir à peut-être déterminer si l'attaque d'insectes est problématique. Si c'est problématique pour l'aspect visuel de la plante ou pour la santé de la plante, et si elle l'est, s'il n'y a pas des solutions, disons, plus douces, soit en utilisant peut-être de la lutte intégrée, c'est-à-dire l'exemple classique, c'est le puceron qui est mangé par la coccinelle, soit en utilisant des vecteurs biologiques comme les coccinelles.
Mais vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens qui passent leur dimanche à aller attraper des petites coccinelles pour venir les...
Non, alors on se rend compte sur les cultures de rosiers, par exemple, qui sont pareilles, qui sont pas en culture intensive et qui sont au milieu de plein d'autres plantes. Voilà, le jardin, nous, on le considère comme un milieu vivant, hein. On le considère comme un ensemble vivant. Donc, plus c'est diversifié, plus on aura de chances que ça fonctionne. On se rend compte sur rosiers, quand il y a des pucerons qui se posent et qui commencent à faire des attaques, on se rend compte que naturellement, il y a des coccinelles qui arrivent quelques temps après. Et qui ont besoin du puceron pour se nourrir, pour faire le cycle de vie. Et nous, l'intérêt, c'est d'observer ça et éventuellement leur filer un petit coup de main au coccinelle. Soit en amenant quelques-unes de plus, soit en favorisant leur vie.
Donc, oui, parce que si on fait une attaque phytosanitaire sur les pucerons, il y aura jamais de coccinelles, voire si elles viennent, elles meurent.
Elles risquent, voilà, si le produit est pas adapté, on risque de, entre autres, se séparer du puceron, mais aussi de tuer tout ce qui va être auxiliaire. Coccinelles, ouais. Il y a d'autres.
Et puis quel est le risque qu'il y ait trop de coccinelles? C'est qu'il y a les oiseaux qui viennent en bouffe.
Voilà, il y a trop d'oiseaux, ben nous, c'est pas les chats s'occuperont. Non, c'est vraiment un ensemble. Il faut voir nous on voit le jardin sur la ville comme vraiment une entité qui fonctionne par elle-même. Et des fois, je dis que le travail de jardinier est un peu un travail de feignant. Parce que l'intérêt, c'est d'observer et de tout faire pour maintenir l'équilibre, une fois qu'on l'atteint, c'est de tout faire pour maintenir l'équilibre, quoi. Donc, on va pas perdre de temps à essayer de résoudre des problèmes. Si on peut les éviter, l'intérêt, c'est ça, quoi. C'est de travailler pour éviter les problèmes.
C'est quand même un travail, bon, admettons que ça soit un travail de feignant. C'est un travail de feignant qui nécessite quand même une connaissance, de l'interaction entre toutes ces plantes et puis y compris les animaux qui vivent dessus.
Ouais, c'est beaucoup d'observation et beaucoup de partage aussi, hein. C'est beaucoup de partage avec des gens, hein, qu'on peut rencontrer dans le même métier. Mais c'est aussi beaucoup d'observation. C'est, voilà, faut être attentif, regarder et se poser des questions, essayer des choses. Si ça marche pas, ben, être capable de tirer bilan et dire, tiens, je me suis trompé, là. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Et surtout, voilà, le partage avec les gens. Ça c'est primordial. On en revient à la diversité. Voilà, c'est que, on en revient toujours à la même chose, quoi.
Tous les jardiniers ont le même cheminement que vous?
Oh non, je pense pas. Non. Il y a déjà, non, il y a des gens qui sont autodidactes et qui le font encore mieux. Hein, ça se trouve. Hein,
Et d'autres qui ont fait plein d'études
et qui font n'importe quoi.
Et qui appliquent des consignes.
Ouais, exactement, ouais. Non, c'est faut aimer ça avant tout. C'est comme toutes les choses. Hein, faut aimer ça. Et à partir de là, si on s'y intéresse, si on aime ça, on essaie d'appliquer des choses, quoi. Il faut aimer l'écologie aussi, il faut aimer être voilà, faut être c'est avant tout un travail aussi de responsabilité quoi. Je veux dire utiliser à tue-tête des phytosanitaires. Maintenant, ça s'appelle plus phytosanitaire d'ailleurs, ça s'appelle phytopharmaceutique.
Ah oui,
oui c'est le médicament des plantes, c'est moins polluant, c'est moins dangereux quoi. C'est la nouvelle détermination détermination qui existe au niveau européen d'ailleurs.
Midi-Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Richard Desplat, quand vous faites une balade sur le territoire du pays Midi-Quercy, entre Montpezat, La Salvetat-Belmonté, Saint-Étienne-Tulmont et Castanet, on vous pose quelque part sans que vous ayez fait la route, sans voir les panneaux, et avec la végétation, vous savez où vous êtes ?
À peu près, oui. Oui, parce qu'on a quand même des entités paysagères bien définies sur le pays Midi-Quercy. D'ailleurs, la charte paysage qui avait été établie les a très bien définies. On peut se repérer suivant le type de végétation. C'est aussi l'activité humaine qui va faire le paysage avant tout. Hein. Comme Saint-Étienne-de-Tulmont, on va vite comprendre qu'on est sur les plaines de l'Aveyron, quoi. Après, si on se retrouve sur un sol caillouteux, avec de la pierre blanche et des arbres rabougris, on va vite comprendre qu'on est sur les sols calcaires. C'est...
Les coteaux de Montclar aussi.
Oui, coteaux de Montclar. Oui, ça se reconnaîtra. On va avoir des sols qui vont changer avec quelques présences de châtaigniers, par exemple. On va savoir le châtaignier là-bas qui commence à apparaître. Des fougères. Des sols qui sont moins lourds, moins argileux. Quoique, ça dépend aussi des endroits. Il y a des entités assez argileuses. Ou forêt des grésignes. On va se trouver en grésigne avec des arbres immenses et le sol qui va être du grès. Bon, voilà, on va se reconnaître. On est capable de se repérer en observant tout autour.
Et là, il n'y a pas des aberrations dans les bourgs ?
Ah si, il y a des belles aberrations. Hein. Déjà, les ronds-points, moi je trouve les ronds-points qui nécessitent des systèmes d'arrosage, par exemple. Ça, c'est une aberration. À mon avis, c'est une aberration. Hein. C'est terrible, quoi. Installer un système d'arrosage intégré, gaspiller de l'eau pour alimenter des massifs sur des ronds-points, pour moi, c'est un peu une aberration, quoi. Autant les traiter en surface minérale ou des sculptures ou je sais pas, avec on peut trouver suffisamment d'idées. Hein. Les ronds-points, disons les aménagements qui vont nécessiter des plantes à massif. Ça, pour moi, ce sont des aberrations. Quand on sait l'énergie que représente la culture à milieu horticole de plantes à massif, hein. Donc c'est déjà des cultures qui sont annuelles. On va utiliser de la tourbe. Cette tourbe vient de tourbière. Au mieux dans les Landes, au pire en Allemagne, en Pologne, on fait venir des camions avec la tourbe pour cultiver des plantes qui vont être arrosées, qui vont consommer énormément d'engrais juste pour fleurir rond-point. Et...
Ouais, mais c'est joli.
Ouais, c'est joli. À mon avis, c'est une vieille vision du jardinage. On est en train de se séparer de cette idée-là. Hein. On supprime. On va se rendre compte que dans les 10 années à venir, ces massifs vont être réservés. Qu'à vraiment des points très particuliers de fleurissement pour autour des bâtiments publics, entre autres, de choses comme ça, ou vraiment marquer des points bien précis. On va plus revenir sur des massifs secs.
Et une aubaine pour les sculpteurs.
Une aubaine pour les sculpteurs locaux et des massifs à base de vivaces, tout simplement, quoi. Avec des techniques comme les paillages et pas d'eau, quoi.
Bon, dans un village, qu'est-ce qu'il faut marquer? Bon.
On peut planter beaucoup d'arbres. Après, c'est le choix c'est politique. Hein.
Oui, c'est politique. Alors, c'est quoi que demandent les gens? S'ils ont une enseigne en tant que commerçant, ils veulent pas que les branches la cachent, mais ils veulent bien que ça fasse de l'ombre à la terrasse, mais pas que dans 50 ans.
La plantation de l'arbre en milieu urbain, ça a toujours été très, très problématique. Hein. On a vu, voilà. Ouais, beaucoup d'aberrations, d'arbres qui n'étaient pas adaptés, hein, soit pour des questions de volume, soit pour des questions de système racinaire. Si on a des arbres qui ne sont pas adaptés au milieu, on va être obligé de les tailler, de les émonder, de faire des tailles sévères, on va fragiliser l'arbre, on embête la population parce qu'on l'immobilise, on fait du travail supplémentaire, on transporte des maladies. C'est pas la solution. Il faut vraiment bien essayer de réfléchir à l'implantation de l'arbre au milieu de ville et trouver l'essence adaptée. Adapté aux contraintes de la ville, quoi.
Bon, alors, le dernier mot, qu'est-ce que vous avez fait à cette fond pour que les gens passent dans des rues où, a priori, il n'y a pas de massif?
Alors, on s'est posé la question, justement, sur la réduction des phytosanitaires. On s'est dit, on a fait le constat, justement, de l'herbe qui revenait en permanence. On s'est dit, on arrête de passer du désherbant, bêtement, et on va un peu aider la nature, entre guillemets. On va semer quelques graines de plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces. Et s'il nous reste des plantes vivaces, on emboulture et on va les insérer dans des fissures ou au pied de mur, quoi. Et on se retrouve avec des plantes qui vont commencer à migrer, qui vont se ressemer automatiquement à droite à gauche. Et voilà, du coup, on a des endroits dans la ville, alors c'est pas partout, hein. On va essayer de le développer de plus en plus. Mais on se retrouve en ville avec des endroits où on a des bandes enherbées ou des plantes qui se développent toutes seules. On essaie d'insérer la végétation en ville. Voilà. Quoi.
Et les habitants, du coup, se disent « Tiens, je mets un gant, j'arrache ce que je veux pas, je prends une bouteille d'eau minérale s'il fait trop sec. »
J'arrose un peu. Oui, on a des certains endroits, des gens qui s'accaparent ce fleurissement, hein, qui se l'accaparent devant chez eux, qui travaillent avec. Quoi.
Et c'est une réussite.
On peut quand même parler de réussite. Ouais. Ouais. On arrive là sur... ça fait 6 ans qu'on l'a mis en place. On arrive un peu sur les... au bout de 6 ans, sur la limite de ces techniques-là. C'est à renouveler. C'est des choses comme...
Mais on en a entendu parler. Qu'est-ce qui se passe à cette fois?
Ça dure 6 ans quand même, et il faut faire des rotations. C'est un petit entretien à faire. Mais on a passé à des endroits, 6 ans sans désherbant, et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il faut juste faire un travail mécanique, on n'a pas besoin de passer de désherbant, on peut tout à fait s'en débarrasser. C'est juste qu'il faut que les gens, la population, à un moment, il va falloir accepter l'herbe en ville. On n'aura pas le choix, quoi.
C'était Richard Desplat, Plantafolie lui doit beaucoup. Merci beaucoup, Richard.
Avec plaisir, merci.
Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire. Retrouvez Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, le mardi à 12h30 et le samedi à 18h.